Radio s'enchaîne.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Radio s'enchaîne. Nous sommes dans une émission spécialement consacrée aux revenus de base. Nous avons comme invité aujourd'hui un membre du comité de l'association du revenu de base, monsieur Julien Dubouchet-Cortet. Bonjour.
Bonjour.
Et je suis en compagnie de deux collaborateurs, Jean-Louis, Claude et Kroll. Bonjour.
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 Alors Jean-Louis.
Alors, monsieur Dubouchet, bonjour.
Bonjour.
Bien.ch se porte bien puisque vous êtes arrivé à concrétiser ce que vous aviez prévu, c'est-à-dire les signatures.
Alors, il faut d'abord préciser une chose qui est un peu particulière dans cette situation de l'initiative sur le revenu de base inconditionnelle, c'est que effectivement Bien.ch était l'association qui en Suisse avait dans ses statuts la défense et la promotion du revenu de base inconditionnel, mais l'initiative en tant que telle n'est pas l'émanation de l'association, c'est-à-dire
D'accord.
que c'est un collectif plutôt basé en Suisse allemande qui a pris la décision de lancer l'initiative. Et
vous vous êtes mis dans le coup.
Et puis évidemment que l'objectif était étant également le nôtre, nous avons suivi. Donc nous avons activement travaillé à la récolte des signatures et contribué effectivement à ce qu'elles aboutissent, puisque aujourd'hui on est vraiment sûr, puisque on a déjà des signatures validées au-delà des 100 000 nécessaires et l'initiative sera déposée à la fin du mois de, au début octobre, à la chancellerie.
D'accord. Mais vous êtes conscient du travail qui a été fait puis qui doit être fait.
Absolument.
D'accord. Vous avez peur ou bien vous êtes surpris que ça s'est passé si vite ou bien ?
Alors, c'était une surprise dans le sens où si nous n'avions pas en son temps lancé l'initiative, puisqu'évidemment dans les biens suisses, donc cette association dans son existence en Suisse, qui correspond à une association mondiale maintenant, qui existe là, elle, depuis plus de 25 ans, a évidemment eu dans ses premières réflexions depuis plus de 10 ans la question d'une initiative populaire, puisque ça paraissait évidemment un des vecteurs principal, et puis en plus quasiment unique à la Suisse par rapport aux autres pays concernés par les débats, de mener le débat, de promouvoir l'initiative. Mais si jusque-là, nous n'avions pas lancé nous-mêmes d'initiative, c'est bien parce que nous avions des difficultés de moyens et l'impression de ne pas être en mesure, ne serait-ce que financièrement. Il faut savoir quand même que même si l'exercice en lui-même de la démocratie directe est gratuite, puisque personne n'a besoin de payer pour signer, mais le travail de collecte, je ne parle même pas du temps de travail militant qu'on ne va pas rémunérer, mais qui est un coût réel pour une association, mais ne serait-ce que le coût de collecte est déjà relativement important et dépassait clairement les moyens de l'association que telle qu'elle existait jusque-là.
On est parti dans un grand mouvement syndical ou bien ?
Non, syndical non, on reviendra sur cette question parce que le lien entre le revenu de base et le syndicalisme est pour le moins, difficile, disons ça à ce stade. Non, ce qui a été une très bonne surprise et ce sur quoi nous n'avions pas osé compter, alors on pourra reprocher à bien d'avoir été frileux en cette matière, mais il y a d'autres raisons à ça sur lesquelles on reviendra, c'est l'engouement d'un mode de récolte beaucoup plus horizontal, hors organisation instituée, puisque très généralement la plupart des initiatives partent
d'un citoyen.
Oui, mais de citoyens déjà organisés, alors à part sur des sujets des fois d'une brûlante actualité, donc la marche blanche qui peut être par exemple une toute petite association puis qui d'un seul coup à la faveur d'un drame passionnel va pouvoir récolter très vite sur cette apparence médiatique, mais nous on n'avait pas du tout ce contexte là, mais en fait ça s'est produit néanmoins en Suisse allemande essentiellement, en Romandie ça s'est aussi propagé par la suite et bien alors contribuer aussi à cette propagation en Suisse romande.
Monsieur Dubouchet, vous n'avez pas, vous n'avez pas, comment, comment on pourrait dire ça? Vous avez encore de l'espérance ou bien vous y croyez vraiment à ce projet?
Absolument.
Voilà.
Je ne serais pas là sinon.
Mais c'est pour ça que vous avez, en tout cas tous, vous avez une ténacité sur ce sujet, sur le plan international quand même, puisqu'on en parle.
Oui, alors c'est, disons là, la vague actuelle, hein, puisque c'est un projet, on y reviendra peut-être, qui a de multiples origines, plus ou moins lointaines. La vague actuelle en Europe, elle vient des années 85, je crois, la création de BIEN, qui à l'époque était le Basic Income European Network, qui avait été lancé notamment par Philippe Van Parijs, donc ce professeur d'économie, de sociologie et de philosophie à l'université de Louvain, et qui lui a inlassablement fait un travail de pèlerin, véritablement, pour fédérer, mais qui était resté souvent, pas toujours, mais à des niveaux un peu académiques, du débat
universitaire.
Notamment parce que, justement, les moyens d'intégrer le débat politique dans la plupart des pays passent par les parlements ou par les voies médiatiques, et qu'il n'y avait pas cet accès direct qu'on peut avoir en Suisse via l'initiative. Donc c'est extrêmement intéressant. Mais quelque part en Suisse, on force un peu l'histoire grâce à un moyen particulier qu'on a. C'est pas du tout que la Suisse soit plus ouverte que d'autres pays du point de vue de l'état de la société ou des représentations à ce genre de problématiques. C'est simplement on a un moyen. Pour autant qu'on trouve l'énergie, et c'est sur cette énergie-là qu'on a eu effectivement une vraie surprise pour certains d'entre nous. D'autres étaient beaucoup plus
optimistes. Alors, M. Dubouchet-Courtais, en 30 secondes, donnez-moi la définition de votre projet.
Alors, le revenu de base inconditionnel. Oui, j'essaye. Non, le revenu de base, c'est une forme de revenu minimum garanti, hein, comme il en existe d'autres, dont le plus connu pour nous, c'est évidemment le RMI français, avec une différence, justement, qui est le inconditionnel, et qui est inconditionnel à trois titres. C'est-à-dire qu'il est, d'une part, inconditionnel, il est indépendant du statut familial. Donc, il n'y a pas de prise en compte d'une personne célibataire ou en famille. Il est inconditionnel par rapport au revenu, donc il n'y a pas de condition de ressources. Et troisième condition, et qui est évidemment une qui fait le plus parler, c'est qu'il est inconditionnel au sens où il n'appelle pas de contre-prestation de ceux qui le reçoivent. Donc il n'y a pas d'obligation de travail, il n'y a pas d'obligation de soins, il n'y a pas d'obligation de méditation. On le reçoit sans condition.
Voilà, on va en parler et une spécialiste est à vos côtés, Niati, qui va vous poser la première question.
Alors, ma première question sera un revenu sans contrepartie. Donc déjà, ma première question, ça sera, ne trouvez-vous pas ce principe un peu utopique? Je pense que vous avez souvent dû répondre à ce genre de questions. Et la deuxième, ça sera, comment sera-t-il financé? C'est surtout ça que les gens se posent comme question.
Je ne sais pas, les questions que les gens se posent sont nombreuses. Mais
non, mais en général, dans mes recherches...
Celles-là font partie des deux importantes. Oui, effectivement.
Très importantes, oui.
Là, en 30 secondes, ça va être dur. Mais
moi, je ne vous réclame pas 30 secondes, prenez votre temps.
Non, sur la question de l'inconditionnalité au sens de la contrepartie. Alors, il y a plusieurs approches possibles, mais... Je vais en prendre une et puis peut-être ça appellera d'autres. Hein. Aujourd'hui, on est dans des systèmes comme la Suisse. C'est à peu près valable dans l'ensemble des pays, je dirais, très développés ou sous-développés selon certains, selon d'autres critères, mais enfin, qui économiquement sont avancés, globalement, ce qu'on va appeler l'Occident. Il existe des formes ou d'autres de revenus minimum garantis. Alors, il y en a qui sont plus ou moins institués de façon claire, comme on le trouve en France, avec un revenu minimum garanti. Mais dans tous les cas de figure, si ce n'est pas une mesure assurantielle, on retrouve derrière, comme dernier filet de sécurité, des mesures d'assistance qui, elles, alors évidemment, sont conditionnelles, très conditionnelles. On pourra définir toutes les conditions qu'il faut pour les remplir. Mais, quelque part... Tout citoyen, et alors là je reprends la Suisse parce que c'est explicite, puisque c'est inclus dans notre constitution, à son article 12, a un droit in fine inconditionnel à des moyens pour assurer une existence digne. Alors après on peut discuter de la dignité, etc. Mais quelque part, cet état de fait d'un droit au revenu existe. Alors, justement, c'est un des intérêts du revenu de base, c'est justement de consacrer de manière beaucoup plus claire et, je dirais, efficace, efficiente, tout ce qu'on veut, cette réalité juridique qui, en fait, devient socialement moins une réalité en raison justement des contraintes qui sont mises pour l'accession à ce revenu. Hein. Prenons l'exemple, pour prendre Genève cette fois, où on a un système aujourd'hui d'assistance sociale, dont je rappelle qu'il y a encore peu de temps, elle était remboursable. Hein, donc on avait une logique de remboursabilité, donc qui a été supprimée au moment où il y a eu l'échec sur le RMR, le revenu minimum de réinsertion. La contrepartie, entre guillemets, était quand même de supprimer la condition de remboursabilité, qui était un peu lettre morte, mais peu importe. On a, à Genève, maintenant, une évolution où on a une partie de l'assistance qui est, entre guillemets, au mérite, enfin, qui reste conditionnelle. Mais si vous ne remplissez pas les conditions qui vous sont posées par votre assistance sociale de l'hospice, évidemment, vous ne toucherez pas les 300 francs supplémentaires, mais le reste, c'est-à-dire la prise en charge de votre loyer effectif à concurrence d'un montant plus le forfait pour vos frais qu'on considère effectifs, vous sera assuré.
Vous le considérez comme un dû ?
Alors, personnellement, oui.
D'accord.
Alors, la question, elle mérite d'être posée. Moi, j'ai une approche dans ce sens-là qui est pragmatique, mais de nouveau, je ne vais pas représenter forcément dans mes propos l'ensemble des partisans, et ni même bien en tant qu'association, puisqu'on a une pluralité de conceptions ou de philosophies sous-jacentes à notre soutien à la mesure. Et c'est d'ailleurs, on y reviendra, un des points très intéressants du revenu de base inconditionnel, c'est que justement il transcende en quelque sorte ou il dépasse les oppositions les plus traditionnelles en matière d'idéologie. Mais dans mon approche à moi, qui je qualifierais plutôt de pragmatique, j'estime qu'on peut s'appuyer sur l'histoire qui a amené à concrétiser le dû, justement, auquel vous faisiez allusion, le dû à chacun d'un minimum de ressources, en me disant que dans des pays comme la Suisse, qui n'ont jamais été particulièrement, progressistes du point de vue social, si on est arrivé à ça, on peut estimer que c'est relativement partagé pour que ce soit dans la Constitution, et donc on peut partir de là.
Oui, mais quand
après, d'autres pourraient dire « Oui, mais c'est peut-être inacceptable, il faut revenir entre guillemets en arrière vers des systèmes où le minimum de ressources n'est plus assuré. » Bon, moi, on peut faire ce débat, mais...
Oui, enfin, un débat, c'est vous qui l'amenez. C'est vrai, quand on lit un petit peu tout ce qui concerne... On va sur les sites de bouillien.ch et compagnie, on lit les articles de certains, c'est vraiment idéologique.
Ça semble.
Qu'est-ce qui est idéologique ?
Ben, vous avez une idée assez catégorique de cet avenir, sans, disons, sans nécessité de travailler.
Non, non. Je vois pas du tout ça comme ça.
Ben, oui, il n'y a pas d'échange. Là, on demande à des personnes de travailler en échange de quelque chose, et là, vous dites non, c'est un droit, on peut donner, ils recevront dès le départ.
Oui, bon, on peut appeler idéologique, parce que de toute façon, à un moment, le choix de savoir si chacun doit un tel type d'échange, est-ce qu'il y a un droit à la dignité humaine, au-delà de son utilité sociale, je mets utilité vraiment entre guillemets, c'est évidemment d'un moment des questions philosophiques.
Ça évite le terme politique.
Mais le fait est que, bon... C'est pour ça que je vous parlais d'une approche pragmatique de ma part, c'est que je préfère me baser finalement sur un existant dont je suis pas je suis un dépositaire parmi d'autres, mais je suis pas à l'origine, j'ai pas écrit la Constitution de 2000, donc c'est un état de fait actuel, je pense qu'il traduit quelque chose de raisonnable, je pars de là. Maintenant, on peut très bien avoir après des développements philosophiques sur le droit de chacun à des revenus d'existence. Alors vous avez des réflexions qui font appel à ce qu'on appelle le droit naturel, qui ont été développées notamment par des libéraux aussi. Par exemple, si vous allez chez Locke, avec la clause de restriction lockéenne, qui fait une restriction au droit d'appropriation originelle, au fait de laisser aux autres une part suffisante de ce qu'on s'approprie et dont on peut penser aujourd'hui dans des mondes urbains, ben évidemment en ville, personne n'a plus accès au minimum de terre pour vivre en autarcie, ne serait-ce qu'alimentaire. Voilà. Donc on peut imaginer qu'on est dans une logique ici de compensation, d'appropriation qui sont excessives puisqu'elles ne laissent plus aux personnes les moyens d'accéder à leur subsistance à travers la ponction dans la nature des biens de base. Ça, c'est une approche. Moi, j'en ai une autre que j'aime bien, qui est celle de dire que la société, l'état de développement de la société et la production est en partie, que j'aurais tendance à considérer très importante, un héritage en termes d'infrastructures, en termes de technologies, de connaissances, de savoir-faire, que si on reprenait tout à zéro, il nous faudrait des années, des siècles et des siècles pour arriver à là. Et tout cet héritage, il me semble être commun. Parce que c'est pas le monsieur Bertarelli, il a fait fortune, il est sûrement très méritant et quelqu'un qui a des bonnes intuitions en matière économique, en matière de production, mais il bénéficie de tout un environnement qui lui appartient pas plus à lui
qu'à nous. D'accord.
Donc voilà une...
Une autre question.
Mais avouez quand même que c'est quand même un changement...
radical,
un changement sociétal, de mentalité, quand même, que vous bousculez en amenant cette initiative.
Bah, j'espère.
Oui. J'ai l'impression que vous expliquez, mais oui, c'est les infrastructures auxquelles on bénéficie aujourd'hui ne nous appartiennent pas, mais quand même, on a quand même, comment expliquer ? On fait un travail qui mérite mes rémunérations. On a toujours pensé comme ça. Et là, vous bousculez quand même l'ordre établi, quelque part.
On ne dit pas que le travail ne mérite pas rémunération. Ce qu'on observe, c'est que il faudrait, à mon sens, être assez bizarre pour considérer que le marché du travail rémunère à sa juste valeur la participation de chacun. Donc, on peut déjà se poser la question de déficience de marché en termes de rémunération. Bon, on a parlé de M. Bertarelli, je crois. Je veux pas insister sur lui, mais enfin, bon, on a vu avec la crise récente bancaire, disons, des gens qui n'ont pas fait franchement des choses très, très productives du point de vue de l'utilité sociale et qui étaient pourtant plutôt bien payés. Ça, c'est un point. Puis il y a une autre chose, c'est que, et là, on en vient aussi à une conception. Alors effectivement, qui est bousculé, mais je pense en bien, et on verra qu'il y a des possibilités très novatrices, et puis il y a des choses qui sont en fait des actualisations, des réactualisations de choses qu'on a en guillemets perverties. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, le travail, pour l'essentiel, est compris comme emploi. Enfin, quand on parle de travail et que vous parlez de rémunération,
emploi salarié.
On parle d'emploi salarié, on parle pas de travail. Le travail, il a mille autres facettes, dont une grande partie n'est pas rémunérée. Alors, on sait que le travail domestique est considéré, en guillemets, par définition, échappant à la notion du contrat de travail en tant qu'emploi parce que il est pour la reproduction de soi-même. Donc, on considère que ce qui est fait pour soi-même n'a pas à être rémunéré, mais il y a toute une part du travail. Alors, le travail bénévole, évidemment, en fait partie, mais tout plein d'activités qui pourraient très bien correspondre à des activités rémunérées qui ne le sont pas.
Donc ça parle d'échange, alors, à ce moment-là.
Mais oui, mais on a des tas d'échanges, mais simplement, on a, à un moment donné du développement économique, choisi une forme juridique pour mettre des droits justement à la rémunération autour d'un certain type de relation d'échange. Et c'est là où on a réduit en quelque sorte le travail à l'emploi salarié. Et là, la force du revenu de base, c'est plutôt une libération du travail hors du salariat, ce qui n'implique pas du tout que le travail ne soit pas rémunéré. Au contraire, c'est que plus de travail soit quelque part rémunéré.
Il n'y a pas une guerre contre le patronat.
Pas du tout,
non.
Mais vous n'avez pas peur en faisant ça qu'il y ait une marge encore plus grande entre les classes riches et les classes pauvres
que, par justement, quel biais
les gens qui sont par exemple déjà à l'hospice ou ou au chômage, vous n'avez pas peur que ça les pousse à travailler encore moins, par exemple, parce qu'on va leur donner, on va donner des sous comme ça à tout le monde. Mm-hmm. Du coup, plus besoin forcément d'aller travailler pour gagner de l'argent.
Oui, là, je reprends l'exemple parce que Philippe Van Parijs, qui est venu récemment à Genève donner une conférence, citait cet exemple qui était intéressant. Je fais un détour, je m'excuse, mais ça reviendra à votre question. Racontait qu'il avait rencontré James Tobin, un grand économiste américain qui était un des aussi défenseurs. Avant la vague européenne, dans les années 60, à l'époque de McGovern, du candidat McGovern aux États-Unis, d'une forme de revenu de base inconditionnel. Et aux États-Unis, dans les années 60, il y a eu effectivement un certain nombre d'essais, en quelque sorte. Alors, à des niveaux locaux, c'est pour ça que les comparaisons, on ne peut pas les faire absolument. Mais quand ils ont mis fin à l'expérience dans certains endroits, ils ont fait des analyses, entre guillemets, pour voir un peu les effets qui avaient été produits. Et puis, Van Parijs racontait que Tobin lui disait justement que ce qu'ils avaient observé à l'époque, les deux effets les plus significatifs, et qui avaient été, pour la plupart, le signe que c'était un échec, c'est qu'il y avait eu un retrait de l'offre d'emploi, enfin, l'offre de main-d'œuvre, donc de la demande d'emploi, en fait. Et puis, une augmentation de la divorcialité. Alors évidemment, dans un pays quand même très religieux, on comprend que quelque chose qu'augmenterait le divorce est mauvais en soi. Et puis évidemment, du point de vue économique, l'idée qu'il y ait une baisse de l'offre de travail, de nouveaux salariés, soit une mauvaise chose. Et ce que disait Van Parijs, à très juste titre, c'était deux effets positifs en fait. Parce que simplement, ça a permis effectivement à une partie, alors souvent des femmes, c'est sûr, de se retirer en partie du marché de l'emploi. Mais c'est pas parce qu'elles veulent pas travailler, c'est que simplement par la structuration du marché de l'emploi, par les charges de famille, elles sont structurellement condamnées, une partie d'entre elles, à occuper les emplois les moins intéressants, les moins rémunérés. Alors évidemment qu'elles vont peut-être se retirer, mais c'est pas forcément un effet négatif.
Oui, mais pour aller où, si elle se retire pour...
Mais si...
Oui, voilà, femme au foyer, pour s'occuper
non, de l'enfant. Non, mais... Non, ça, c'est, vous pouvez avoir cette vision-là. Moi, j'ai pas de vision très normative par rapport à ça. Je suis pour la pleine et entière participation des femmes au monde économique. Je suis pour la possibilité aussi...
On parle pas forcément
pour
de femmes.
Hommes et femmes de pouvoir rester au foyer le cas échéant, parce que je pense que c'est pas... Si pendant 4-5 ans, des personnes se retirent, entre guillemets, du marché de l'emploi, salariés de nouveau, parce qu'ils préfèrent consacrer leur temps à l'éducation de leurs enfants, à l'entretien du foyer, c'est pas diffamant non plus. Hein. Je veux dire, c'est pas une mauvaise activité.
Si c'est un choix, oui. Si c'est une conséquence, non, effectivement.
Mais là, c'était un choix, en fait.
En l'occurrence.
Mais justement, et disons, le point de force de l'initiative, c'est... Et c'est pour ça que je reprends Philippe Van Parijs, puisque ça me semble rester l'auteur le plus pertinent sur la question. Son ouvrage phare, c'est Real Freedom for All, donc liberté réelle pour tous. L'idée fondamentale à la fin de tout, in fine, c'est la liberté. C'est un accroissement de la liberté, du pouvoir de négociation de chacun et d'aller vers des vrais choix. Alors après... Et c'est ce qui peut être amusant si vous entendez moi là, présentement, mais d'autres qui vont défendre. Chacun, après, a les espoirs qu'il veut dans la liberté, mais des désirs dans ce que les autres vont faire. Alors, si vous êtes un plutôt écolo, baba cool, vous avez plutôt envie qu'on les gens arrêtent d'aller en voiture au travail, se libèrent d'emplois qui seraient loin de chez eux, se relocaliserait, ferait une coopérative agricole, détruire un immeuble, mettrait des... Voilà, c'est une option, j'ai rien contre.
Ouais.
Et est-ce puis que... d'autres vont alors par contre, plus dans une optique plus libérale, dire bah, ça va permettre une plus grande flexibilité du marché de l'emploi, puis ils vont avoir en tête une société libérée dans le sens de la capacité d'entreprendre, de prendre des risques, parce qu'on sait qu'on a un socle de sécurité. Ça, c'est ce qui fait qu'il y a des éléments qu'on peut pas prédire. Certains le prédisent. Moi, en tout cas, je m'en garderai bien.
Monsieur Dubouget, avant de faire une petite pause, est-ce que vous ne pensez pas que, justement, votre initiative, votre mouvement tombe bien avec la crise, avec la rénovation du travail, avec les oui. chutes bancaires, les hausses bancaires, est-ce que c'est le bon moment sur le plan international?
Tout à fait. Il y a deux éléments à ça. Il y a une première chose, parce que ça a été une des causes de la quasiment de la disparition, entre guillemets, du thème, hein, on l'appelait plutôt l'allocation universelle il y a une quinzaine d'années dans le monde francophone, qui avait fait une petite émergence à un moment dans le débat, qui était plus ou moins apparu, où les gens évoquaient cette idée. Il y avait quelques... Puis après, ça a disparu. En fait, ça a disparu parce que on s'y était intéressé, entre guillemets, à la faveur de la crise du plein emploi, enfin des années 90, milieu des années 90, où on pensait, où on a eu les bouquins de Rifkin sur la fin du travail, ce genre de choses. Et puis aujourd'hui, on se dit la même chose. On se dit le système va pas bien, on est un peu dans l'impasse, donc on le fait relever. Alors effectivement, ça a ces effets de contexte qui sont favorables. Mais je dois juste préciser une chose, c'est que c'est pas du tout une pensée de crise. Hein, c'est pas du tout un projet qui s'inscrit dans l'idée de répondre à une crise. On pense, et c'est ce qui le rend effectivement, ce qui lui donne son opportunité, et qu'il le rend quelque part urgent pour nous, c'est qu'il aura la capacité, enfin ce sera un système qui permettra justement, selon nous, d'éviter les crises qui sont actuelles. C'est, si on avait fait comme ça depuis plus longtemps, qu'on avait été dans ce genre de sens des répartitions des richesses et de l'organisation économique, on n'aurait pas les crises qu'on a connues. Mais c'est pas venu comme une réponse à la crise. C'est
on
ça.
Revient avec Jean-Marie qui va nous passer un morceau de musique. On revient avec Monsieur Dubouchet tout à l'heure. Radio s'enchaîne.
Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe.
Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombine qu'Arlequin, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin. Femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse. Femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sensuelle et pudique, et femme chirurgien esthétique. Une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine, faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir. Femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agence prêt. Femme générale d'aviation, rouler des gamelles au planton. Être un major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, aimée ici impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa. Femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée, galonnée jusqu'au fort jartel et au steward rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la
présidence et de la faire porter la France. Femme et gardienne de prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une stripteaseuse à temps perdu, emmerdeuse comme on n'en fait plus. Femme conducteur d'autobus, forte réale, vendeuse aux puces, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme, femme des années 80, moins Colombie de Carlequin, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme on voit les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin. Sa police et femme banquière planquée en Suisse, femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet, à la fois sans salut public et femme chirurgien esthétique, être un major de promotion, parler si langue, ça tue marron, championne du monde des culturistes et messici impératrice, femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret, femme générale d'aviation, rouler des gamelles au plancton, femme pilote de long courrier, mais femme à la tour contrôlée.
Radio s'enchaîne.
Alors, Nadia, redire avec M. Dubouchet.
Alors, nous sommes de retour sur notre émission consacrée aux revenus de base. Il y a une question auxquelles vous n'avez pas tout à fait répondu, vous n'avez pas fini de répondre tout à l'heure, c'était comment sera financé ce revenu, cette liberté, pour reprendre votre terme.
Oui, et puis ça me rappelle que je n'ai pas non plus vraiment répondu à la question entre le gouffre, entre riche et pauvre, et est-ce qu'il l'augmenterait. Alors là, je prends les deux ensemble, parce que c'est pas simple. Il y a dans le projet, donc, là, on parle aujourd'hui, puisque c'est les chiffres qui sont avancés, même si dans l'initiative, il n'y a pas de formulation de montant, on parlait d'environ 2500 francs par mois et par personne. Donc, ici, il y a un effet évident de distribution ou de redistribution vers les plus pauvres. Parce que, en dépit de l'assistance sociale, en dépit de toutes les assurances, on a un certain nombre de personnes qui vivent avec moins de 2500 francs par mois. Et puis, alors, si vous prenez après des groupes familiaux, c'est carrément évident, puisque toutes les prestations d'aide sociale ou d'assurance, pas d'assurance sociale parce que le chômage ne correspond pas à ça, mais vous prenez l'AVS, vous prenez effectivement l'assistance, il y a des quotients familiaux qui font que ça diminue. Donc, on aura de toute façon, alors vers le bas de l'échelle des richesses, un gros transfert. Donc, en ce sens-là, par rapport à la question riche ou pauvre, on aura moins de pauvres. Ça, c'est une évidence.
On ne devrait pas en avoir, puisque
on ne devrait pas en avoir.
Finalement, oui.
Oui, bon, la pauvreté, après, enfin, c'est une notion assez complexe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes purement monétaires, on aura un transfert clair et univoque vers le bas de l'échelle des revenus. Donc là, en ce sens-là, on sait pas. Je dis pas encore le rapport entre riches et pauvres, mais en tout cas, au niveau des pauvres, on aura moins de très pauvres. Ça, c'est déjà une chose. Et c'est pour ça que j'en viens au financement, parce que, de nouveau, c'est surtout le financement et les modes de financement qui seront choisis qui vont, par contre, déterminer l'autre dimension des transferts, c'est-à-dire au-delà du revenu inconditionnel. Prenons le pire, en guillemets, des scénarios, c'est moitié TVA et puis moitié impôt sur le revenu dès le premier franc, et puis le revenu de base taxé.
D'accord.
Bon, voilà, là vous diminuez fortement l'effet redistributif, puisque évidemment vous allez surenchérir le coût de la vie pour les personnes, donc
quelque part, vous diminuez mécaniquement l'argent qu'ils reçoivent. Et puis de l'autre, bah, évidemment, si vous les imposez sur leur revenu, ça diminue aussi. Donc le revenu net, enfin, l'effet sur le revenu net est plus faible. Maintenant, c'est pas de nouveau le modèle qu'on va privilégier. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, enfin, il y a deux choses que j'aimerais dire, c'est que il n'y a pas de modèle de financement qui est prévu dans l'initiative. Bon, parce que de toute façon, à mon sens, ce serait impossible d'un point de vue constitutionnel, parce qu'on respecterait par l'unité de la matière. Voilà. Enfin, ça serait impossible.
Il faut pas le faire trop vite.
Parce que non, mais vous imaginez s'il faut régler, il faut changer la loi sur l'AVS, sur l'AI, etc. Dans un article constitutionnel, des lois qui font toutes entre 40 et 50 pages. C'est plus une constitution qu'on en aura, c'est un bottin téléphonique. Donc ça, c'est pas possible. Mais toujours est-il que dans ces modèles-là, il y a deux choses, c'est qu'il faut voir ce que ça représente comme coût par rapport à l'argent disponible. Donc là, sur l'hypothèse des 2500 francs, on est à environ 210 milliards sur à peu près 600 milliards de PIB, donc on est sur un tiers, un gros tiers. Ça veut dire que l'argent, il est là, donc on n'est pas dans une mesure où on dépasse la richesse produite. Ça ne veut pas dire qu'il est comme ça immédiatement disponible et caché dans un coin. Mais ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Il y a une disponibilité, on n'est pas dans quelque chose qui dépasse les montants. Le deuxième élément qu'il faut dire sur les modélisations économiques des financements, c'est qu'elles sont toutes fausses. Elles le sont nécessairement. Parce que simplement, si vous changez le mode des distributions, avec des effets de marge qui sont très importants. J'y reviens parce qu'il y a une différence. Le salarié qui gagne, les salariés moyens, je veux dire, qui va gagner entre, 4 000 et 8 000 francs. Hein, le revenu médian à Genève, c'est plus de 7 000 francs aujourd'hui. Ouais. Donc, je suis à peu près dans la cible. Ce salarié-là, globalement, d'une façon ou d'une autre, s'il ne change pas son comportement, le revenu qui va toucher le revenu de base, il va en guillemets le perdre par les augmentations, qu'elles soient fixées sur la TVA, qu'elles soient fixées via une révision de l'impôt fédéral. Donc,
En gros, ce que vous dites, c'est qu'il le touche, mais il ne le touche pas.
Ben oui,
il le touche, il le perd automatiquement.
Ce qui est normal, parce que c'est évidemment que l'initiative, elle ne promet pas 2500 francs de plus à tout le monde.
Voilà.
Parce que là, en plus, par rapport à la préoccupation que vous aviez entre riches et pauvres, effectivement, vous ne réglez rien. Et puis là, vous dépassez largement tous les coûts, puisque une part du financement, il vient par le remplacement de transfert. On va imaginer, évidemment, que quelqu'un qui touche l'assurance chômage, si elle devait rester, on va déduire de ses indemnités de chômage le montant
Alors, si un riche nous écoute, il ne faut pas qu'il fasse plaisir. Alors, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses, lui.
Comment ?
Il n'a rien à voir là-dedans, un riche. Enfin, un gros salarié.
Il perd 2500.
Ah ben non, mais de toute façon. Alors, c'est là où, évidemment, par rapport à la question qui était posée entre riches et pauvres, ça va être les orientations. Le revenu de base ne termine pas le débat politique. On va retrouver les mêmes problématiques qu'on aura sur les orientations de la société qu'on veut.
D'accord.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir le choix, soit, prenons les extrêmes, effectivement, d'une, je vous ai dit un peu avant, que de la TVA et puis un impôt qui démarre au premier franc. Puis vous pouvez avoir une option qui serait évidemment beaucoup plus redistributive en disant on finance le besoin supplémentaire financier par une augmentation de l'impôt direct sur le revenu.
Ouais.
La progressivité de l'impôt, par exemple. Ça,
avec tout ce que vous dites là, vous allez directement vers une révision de la Constitution, parce que c'est quand même inconstitutionnel tout ça, non ?
Non.
Non ?
Non, je vois pas. La progressivité de l'impôt est dans la Constitution.
Ouais.
Le droit de prélever des taxes.
On a aujourd'hui
des sources multiples, disons l'argent qui passe d'une façon ou d'une autre par l'État au sens strict, comme large, c'est-à-dire les transferts qui ne passent pas forcément par des prestations, qui sont des purs transferts. Il y a des sources multiples, et c'est pour ça que. Là, de nouveau, je vais faire œuvre de pragmatique. Je ne pense pas qu'il y ait un modèle qui est un modèle unique qui se baserait que sur l'impôt fédéral direct ou que sur la TVA. De toute façon, la fiscalité, par sa difficulté de d'établissement, hein. Je rappelle que quand même que c'est à l'origine des révolutions françaises et d'un certain nombre d'autres, c'était quand même des frondes antifiscales. Donc la fiscalité est toujours un sujet sensible. Donc qu'elle repose sur les différents piliers existants, ça paraît évident. Maintenant, il y aura des accents qui seront mis et qui seront de nouveau. Alors, d'une part, je pense, la question de choix de société. Et puis, d'autre part, il y a une dimension d'effet économique qui doit être prise en compte, puisque si vous mettez que de la TVA, vous risquez de favoriser le marché noir. Il y a toujours des effets d'échappatoire, etc. Hein, donc ça, c'est pour ça que le modèle il restera probablement basé sur les différentes composantes et en fonction de la volonté plus ou moins redistributive, c'est-à-dire de plus ou moins diminuer la répartition, l'écart entre les revenus. Ben, on ira plus sur l'impôt sur le revenu et ça, on jouera plus sur sa progressivité. Donc tout ça, c'est les effets. Je venais au deuxième point qui disait où les modèles sont de toute façon faux, c'est que les modèles sont statiques. Hein. Aujourd'hui, on fait des modèles en comptabilité nationale. Il y a des économètres qui ont essayé de travailler un peu sur des choses dynamiques, mais dynamique, quand vous faites un modèle économétrique, il faut rentrer des paramètres. Hein. Donc, un paramètre, il va calculer un prorata de changement de comportement. Ils sont quasiment impossibles à prévoir. Parce qu'en plus, il y a deux phases. Il y a une première phase, c'est on introduit le revenu. Donc évidemment, il y a un changement immédiat de la situation de chacun. Donc les gens vivent avec un vécu, des habitudes, des perceptions, et puis d'un seul coup, leur situation change. Donc modéliser la réaction à ce changement est compliqué. Puis après, dans une deuxième phase, vous avez des gens qui l'ont comme anticipation. Évidemment, alors ça fera peur à des gens de dire qu'on va donner des sous à des jeunes et que les jeunes vont avoir de l'argent
On va aller jouer au baby. Ouais.
Donc on les voit déjà derrière le baby foot en train de siroter des diabolo grenadine toute la journée. Mais ça, évidemment, ça va changer les préférences des personnes, enfin les espérances, l'entourage cognitif des personnes, et donc ce qu'ils vont en faire, on ne sait pas. On a un certain nombre d'idées, comme on l'a vu tout à l'heure, des personnes, parmi les personnes qui ont des très mauvais emplois par pure nécessité, qui gagnent peu parce qu'ils ont temps partiel, et puis qui d'un seul coup ils ont un revenu qui est égal voire supérieur à ce qu'ils touchent par le travail.
Je peux me permettre de vous couper parce que justement vous prenez l'exemple d'une personne qui a un travail ou un revenu vraiment minime. Cette personne, en l'occurrence, elle ne serait pas forcément aidée par ces 2500 francs.
Ah bah oui.
Je termine. Parce que si elle a 2500 francs pour faire son mois, elle a ses assurances à payer, mettons 500 francs d'assurance pour une personne de notre âge, en gros, plus son loyer, on va prendre un loyer de 1200 francs, loyer petit mais moyen quand même, ça fait, on en est à déjà 500 francs plus 1200 francs, 1700 francs, il lui reste pour manger et pour faire son mois, donc pas grand-chose.
Oui, mais si elle a déjà ça ou moins pour vivre actuellement, et qu'en plus elle passe 40 heures à faire les ménages à 6 heures du matin, peut-être qu'effectivement elle va se dire quitte à rien. Alors après, je veux dire, là de nouveau, les choix, on ne peut pas les prédire. Vous aurez des personnes qui, dans cette situation, de toute façon, continueront à travailler parce que justement elles cumuleront une part. Hein, c'est-à-dire que la part du revenu de l'emploi qu'elles auront, même mal payée, alors lui rentrera probablement dans l'imposition, hein, parce que nous on est évidemment pour alors là je crois que c'est relativement unanime pour une défiscalisation du revenu de base, parce que ça paraît stupide de faire des transferts et des retransferts immédiatement, autant le déduire immédiatement ou le diminuer. Ouais. Donc pour nous le socle est inconditionnel et donc il est intouchable au sens il n'est pas non plus pris dans l'impôt. Donc elle a ses 2500 francs. Elle touche 2000 francs dans sa boîte de nettoyage, d'accord ? Alors peut-être qu'elle a pour l'instant encore une petite aide par-ci pour l'assurance maladie, et puis au niveau des loyers, il y a une petite aide. Enfin, je passe les détails. De ces 2500 francs vont s'ajouter son salaire, hein, dans un premier temps. Alors, ça c'est aussi un effet. Un des effets probables, c'est que les salaires vont peut-être être ajustés en partie vers le bas. Mais ils vont plutôt être ajustés en partie vers le bas sur des salaires où il y a de la marge. Cette dame en question, eh ben, elle a un intérêt à travailler. Si c'est le salaire qui lui compte, comme elle cumule un revenu de base avec un salaire aussi faible soit-elle, il y a quand même une augmentation de son salaire. Alors simplement, évidemment, le rapport de son salaire, enfin ses 40 heures de travail qu'elle va faire par semaine, si une partie de ce salaire, puisqu'il sera du coup peut-être imposé ou etc., diminue, donc mettons que ça lui rapporte que 1 000 francs, elle va se dire, est-ce que je vais travailler 40 heures, entre guillemets, pour 1 000 francs, ouais. Alors que sans travailler, j'ai 2 500 francs au lieu des 3 500 francs, puisque quand c'est cumulé. Donc effectivement, ça va poser la question. Alors il y en a qui vont dire, de toute façon, moi, plus j'en engrange, même si c'est marginal par le travail, bah, je continue. D'autres qui vont dire, oula, bah, je diminue au moins un peu. D'autres qui vont dire, bah, ouh, j'arrête. Je préfère avoir mes 40 heures à moi où je fais d'autres choses, ou à la limite, je fais un petit boulot par-ci, par-là, ou autre. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, bah, c'est génial, je vais faire des études et je vais essayer de sortir de cette branche
donc
économique.
Ça avantage tout le monde.
Complètement.
Alors, on va quand même changer un petit pas de sujet. Mais Kroll avait une autre question à vous poser concernant l'environnement, ceux qui s'occupaient de certaines choses avant et qui ne vont plus s'occuper de financer les gens, les assister. Il y aura du ménage.
Vous parlez des assistants sociaux.
Il y aura du ménage. Oui. Alors, ça c'est pour Kroll, je ne sais pas, il avait la question précise.
C'est très amusant parce que je l'ai observé avec le... Ça sonne. Je l'ai observé au fil des débats et en rencontrant les personnes. Vous avez les deux. Je pense que parmi les plus farouches opposants et les plus farouches partisans, vous avez les assistants sociaux. Alors c'est assez rigolo parce que vous dites que c'est la même corporation. Et puis il y en a qui sont résolument contre et puis d'autres qui sont résolument pour. Alors ils ont en partie raison les deux, en fait, puisque ceux qui sont contre, évidemment, ils voient une chose évidente, mais si à l'hospice, j'ai plus à vérifier si Madame Machin n'est pas allée faire un ménage au black et qu'il faut que je lui déduise de son chèque,
ça veut dire
que
j'ai plus de travail.
Alors bon, là, à ça, je réponds quand même que la finalité d'un travail, évidemment que c'est un élément important de percevoir un salaire pour son travail, mais la finalité de son travail, c'est le sens de son travail. Donc quand il s'agit d'aider les gens, vous ne pouvez pas considérer raisonnablement que c'est une finalité d'être assistant social. Non, mais sinon, c'est l'entretien de la misère pour obtenir son travail. Donc c'est pour ça que c'est une posture que je comprends, qui est corporatiste, mais qui est intenable en termes de justice. Donc ça, c'est un argument qui me fait un peu rire. Et puis c'est pour ça que je préfère l'argument des assistants sociaux qui sont favorables. C'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mmh. Et surtout aujourd'hui. Hein, on aurait fait ça dans les années 70, peut-être qu'ils auraient été moins. Mais aujourd'hui, vu le type d'assistanat social qu'on offre dans beaucoup de services. Alors, je ne vais pas englober tout le monde.
Non, on ne va pas trop rentrer dans le sujet, c'est une autre émission.
Mais simplement, les personnes qui ont à cœur leur mission et qui n'ont pas perdu le sens encore de leur mission, qui n'ont pas encore été complètement perverties par la formation, ils voient l'opportunité de faire leur travail, comme disait madame. Oui, retrouver le sens de leur travail, d'être là pour aider. Parce que ce n'est pas parce qu'on va donner 2500 francs à quelqu'un qu'on va régler les problèmes de violence conjugale, qu'on va régler... Si, un petit peu, ça permettra quand même un peu à madame de se tirer si elle n'a pas de revenus. Mais ça, c'est un bout. Mais par exemple, ça ne va pas régler l'alcoolisme, ça ne va pas régler... Enfin, toutes sortes de problèmes qui resteront des problèmes sociaux qui méritent une assistance de la société. Mais là, ils pourront travailler sans avoir à commencer à dire « Mais vous m'avez amené le document 1, le document 2, l'attestation comme quoi vous n'avez pas fait ça, puis qu'est-ce que vous avez fait à telle heure ?» Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu malheureusement la réalité du travail social. C'est beaucoup de contrôle. Pas beaucoup d'aide.
Alors, monsieur Dubouchet, on va pas arrêter cette émission, mais elle se précise un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions, mais il y en aura encore quelques-unes, qu'une ou deux. Niati a deux, trois questions quand même qu'elle a bien notées, qu'elle va quand même vous poser.
Alors, bon, ben, heureusement ou malheureusement, vous avez quand même répondu à une grosse partie de mes questions.
Bravo.
Et j'en ai une dernière, ce serait. En quoi les classes basses et les classes moyennes tireraient un avantage du revenu de base, vu qu'apparemment, comme vous l'avez expliqué, les classes aisées n'auront pas accès à ce revenu de base.
Les classes basses, bon, les classes aisées évidemment, mais c'est parce qu'il y a.
Oui, mais j'avais entendu le contraire au début, que c'était inconditionnel à tout le monde.
Voilà,
oui,
c'est inconditionnel,
c'est-à-dire qu'ils le reçoivent. Mais de nouveau,
il leur est déduit.
C'est une question. Si on prend des termes économiques, c'est une question de coût d'opportunité. Si vous gagnez 50 000 francs par mois, vous avez un certain nombre d'avantages qui sont associés à ça. Avec le revenu de base, vous gagnez quelque chose. Vous gagnez la possibilité, comme tout un chacun, de, par exemple, cesser une activité pendant un certain temps et d'être assuré d'un minimum de revenus. Mais évidemment, le coût d'opportunité pour quelqu'un qui a 50 000 francs par mois, qui a une grosse maison, une résidence secondaire, trois voitures, et que je vous passe les détails, évidemment, les avantages de sa situation actuelle vont probablement...
C'est quoi être riche en Suisse ?
C'est ça ? Oui, c'est à quelle moyenne, à quel moment on est riche ?
Oh.
C'est ça ?
Ça, c'est une très bonne... C'est
jamais
sur quoi vous vous basez pour dire, ben voilà...
Non, mais je vous donne un exemple extrême, puisqu'on parle de richesse.
Bien sûr, ouais. Bien sûr.
50 000 francs par mois, on peut considérer d'accord. sans difficulté qu'on est riche.
Ouais,
je dirais que quand on a...
En dessous, à 30 000 francs par mois, non ?
Si, bien sûr. Si. Pour moi, à partir de 10 000 francs par mois, vous êtes riche. Mais bon, c'est... Après, vous avez des questions patrimoniales. Vous avez... Il y a plein... c'est pour ça que je préfère prendre un exemple... peut-être un peu caricatural, mais au moins, on est sûr de s'entendre avec tout le monde. Si quelqu'un me dit qu'à 50 000 francs par mois, on n'est pas riche, d'accord. Donc, cette personne-là, pour le mécanisme, ça joue la même chose. Cette personne-là, elle a un coût d'opportunité énorme de saisir ce que lui offre le revenu de base. Parce que, du coup, elle doit renoncer, entre guillemets, à son revenu et tout ce qui est attaché. Dans la classe, je dirais, moyenne, on reprenait les 4 000, 8 000, où on a vu que l'effet était relativement faible hein, du point de vue transfert, était modéré. Hein. Le riche, lui, paye en fait le revenu de base des autres, puisqu'il faut bien que quelqu'un le paye. Dans la classe moyenne, où l'effet de transfert est relativement faible, alors là, de nouveau, y aura aussi des questions de coût d'opportunité, mais qui sont beaucoup plus complexes et qui vont dépendre notamment, par exemple, de la composition familiale. Si vous avez fait une répartition... traditionnel homme-femme, disons que l'homme travaille et rapporte, maintenant c'est de moins en moins le cas et la plupart ont deux revenus, mais évidemment vous avez un salaire complémentaire, il y a un effet, puisqu'il y a un revenu complémentaire par l'autre individu du foyer. Si les deux travaillent, l'effet il est moindre, puisque les substitutions font. Donc tout ça va créer des situations nouvelles dans lesquelles les personnes auront à choisir. Et c'est ça l'intérêt, c'est que ce sera à elles de décider et pas aux autres de dire ce qui est bien. Et de nouveau, ceux qui sont plus utopistes voient déjà une société totalement démarchandisée où les gens vont ne s'intéresser plus qu'à la culture et à l'épanouissement de soi. Moi, j'aimerais bien.
C'est très
utopique. Moi, je doute que ce soit le cas. Mais
c'est pas le cas.
Ça m'appartient, c'est mon point de vue. Mais ce ne sera pas noir ou blanc. Et par exemple, je vais prendre deux exemples dans lesquels c'est très intéressant.
Et après, on termine.
J'ai une dernière question.
Il y a deux exemples très intéressants. Il y a, par exemple, pour les paysans, pour l'agriculture, hein, dont on sait que, disons qu'il y a un problème de revenus. Bon, c'est déjà largement subventionné, mais ça demeure des problèmes chroniques de revenus, et notamment dès que vous sortez d'une logique très industrielle de l'agriculture et que vous essayez de faire un petit peu autre chose. Bon, avec un revenu minimum de 2500 francs, qui assure la subsistance de la personne, vous pouvez beaucoup plus facilement mener votre exploitation selon les principes que vous voulez. Alors évidemment, vous ne assurez pas forcément les revenus, mais c'est déjà le cas. C'est des gens qui vont crever la misère pour leur conviction. Au moins, ils ont déjà ça. Donc vous avez une subvention qui est beaucoup plus intéressante que des subventions sur des grosses productions, etc.
Donc ça donne du travail, quoi.
Et le deuxième exemple, c'est tout ce qu'est le mouvement coopératif, qui avait beaucoup le vent en poupe dans les années 70. Enfin, il l'a eu légèrement, mais enfin, où il y avait plein de choses qui étaient intéressantes à développer. Parce que c'est ce que je disais à certains qui me disaient, mais avec 2500 francs, on ne fait rien. Mais vous mettez à 10, hein, et vous faites une petite communauté, vous avez 25 000 francs de revenus mensuels pour votre communauté. Vous commencez à faire beaucoup de choses avec 25 000 francs pour 10. Beaucoup plus que 2500 pour une seule personne. Alors, maintenant, tout le monde n'a pas envie d'habiter dans une ferme communautaire, tout le monde n'a pas...
Ça ne va pas croire.
On ne veut pas obliger, c'est pas le kibbutz généralisé. Mais ceux qui ont envie de le faire, ils reçoivent les moyens d'expérimenter des choses qui aujourd'hui sont impossibles. Vous regardez, pour faire des coopératives d'habitat, aujourd'hui les coopératives d'habitat, c'est du haut de gamme pour l'essentiel. Et c'est accessible à des gens qui ont déjà des revenus qui sont très élevés. Donc, c'est dans ces potentialités qu'il y a des choses très intéressantes qui se profilent.
Dernière question.
Alors, ma dernière question, ce serait, le revenu de base ne serait-il pas un fardeau économique pour la Suisse ? Vu que je vais vous avouer que j'ai pas vraiment bien compris le financement.
Mais alors,
en deux points de nouveau. Contrairement à d'autres, je n'ai pas de problème à considérer que le financement est une question évidemment importante. Mm-hmm. Maintenant, où je ne veux pas répondre, c'est que, en quelque sorte, rentrer dans les détails,
c'est trop avancé encore.
Mais c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais faire le modèle, d'abord.
On a bien entendu, on a bien compris.
Et puis le modèle, il va se construire sur des rapports de force, sur des préférences sociales, et il sera, et ça c'est la seule chose où je suis à peu près sûr, c'est qu'il sera de toute façon très multiple. Essayer de le réduire comme ça en disant on va faire comme ça, ça se passera pas comme ça parce qu'on sait la difficulté. On est déjà si on arrive à faire adopter le revenu de base, on aura fait une révolution législative en Suisse. Mais donc après tout le reste, ce sera donc fardeau. Non, je vois pas.
Alors les détracteurs disent souvent que ça risque d'être un fardeau économique.
Oui, mais on rappellera quand même que l'AVS, qui est l'assurance sociale la plus proche en Suisse d'un revenu de base, puisque sans être alors il n'est pas inconditionnel puisqu'il est pour la cessation, pour atteindre l'âge de la retraite, mais dans son mode de financement et de redistribution, il est assez proche de quelque chose d'inconditionnel, puisque bon, il y a le quotient familial, mais le montant, il est quand même bridé, il n'est pas en fonction du revenu passé, il n'est que très marginalement. Donc l'AVS qui est très proche de ça, quand il s'est agi de mettre l'AVS en place, je ne vous raconte pas les cris d'effroi de tout le monde, c'était impossible, oui. C'était une utopie. Alors c'est vrai, c'est la guerre, la Deuxième Guerre mondiale qui a rendu possible ces avancées en matière de retraite. Mais disons que la guerre économique qui est presque à nos portes pourrait être une bonne raison de le faire avant plutôt que de le faire après le revenu de base.
Monsieur Julien Dubouchet-Courtet, merci d'avoir répondu à nos questions. Courtet, une autre chose. Qu'est-ce qui vous fait courir comme ça? Dites. Parce que là, vous y croyez, vous êtes un homme de conviction. Et ça nous fait plaisir de recevoir une personne comme vous dans la mesure où... elle a des choses à nous dire et nous apprendre.
Alors, j'essaie de vous le faire court.
Oui, très court.
C'est une conviction. Alors, évidemment, qui fait...
Ça vient de la famille, ça?
Non.
Non?
Non, mais, disons, un certain souci de justice sociale, pour faire très vite, m'a toujours animé. J'ai découvert l'allocation universelle en son temps en faisant mes études, bêtement. Et puis, j'ai été séduit. Puis j'ai un enfant de... J'avais 15 ans en 89. 89, je rappelle, c'est quand même... Août le bicentenaire de la Révolution, un moment relativement important dans la recomposition des grandes idéologies, disons. Ouais, j'ai été séduit par ça. Et en fait, ma conviction s'est ancrée dans la pratique. J'ai été syndicaliste plusieurs années. Et je me suis intéressé aux questions sociales. Et chaque fois, en fait, quand j'essayais d'oublier le revenu de base en me disant c'est utopique, c'est quand même trop loin, et chaque fois que j'étais confronté à des problèmes, je me disais, mais la solution, là, dans ce cas précis, avec Madame Machin ou Monsieur Tartampion, je me disais, mais c'est le revenu de base. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à monter des usines à gaz pour essayer de faire quelque chose pour des gens qui ne seront pas heureux de toute façon dans la solution qu'on va leur trouver, qu'on va... Et puis je me dis, mais s'ils avaient un revenu de base. Et j'ai construit ma conviction profonde, d'accord, après une adhésion intellectuelle première, dans la pratique des problèmes sociaux, pour le dire.
En définitive, vous ne le désarmez pas?
Non, absolument pas.
Merci. Alors, on était avec Niati, Kroll, et monsieur
Julien Dubouchet-Courtet.
Et Jean-Marie à la technique. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Radio s'enchaîne.